J'ai la tête d'un moule ?
C'était il y a 2 ans. Le candidat Emmanuel Macron en campagne se défendait d'être sorti d'une fabrique à élite formatée.
Bah non. L'ENA, c'est pas un moule, c'est un moule pour qui veut le devenir ou qui l'avait déjà.
Depuis la bronca des Gilets jaunes et le grand débat national, Emmanuel Macron a, semble-t-il, changé d'avis. Il envisagerait de supprimer l'ENA pour favoriser l'égalité des chances et répondre à la défiance des Français envers les plus hautes sphères de l'État. Ironie de l'histoire, l'École nationale de l'administration, créée en 1945 par le général de Gaulle, voulait combattre le recrutement par copinage dans la haute fonction publique.
Bernard Boucaud, fils d'artisan.
Michel Collin, fils d'expert comptable.
Yves Guyoncan, fils de professeur d'université.
Martine Aubry, fille de haut fonctionnaire.
Depuis, l'ENA a formé 4 présidents de la République. Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, François Hollande et Emmanuel Macron. Une porosité entre vie politique et haute fonction publique, un entre-soi qui alimente les critiques. Pour ses détracteurs, l'ENA est la matrice de la pensée unique, une école du pouvoir, des privilèges et des privilégiés. Faux, affirme sur Twitter la direction de l'école basée à Strasbourg. 75 ans après sa création, elle revendique 26% d'élèves boursiers.
On a des gens qui viennent de familles différentes. Moi, je viens d'une famille, mes grands-parents travaillaient à l'usine. Aujourd'hui, je suis à l'ENA.
Alors, l'ENA est-elle le bouc émissaire idéal dans un système qui ne parvient pas à corriger les inégalités sociales? Est-elle vraiment une école de la reproduction des élites? Faut-il la supprimer pour réformer la fonction publique?
Qui vous pose la question suivante, qui demande si la fermeture de l'ENA faisait partie des revendications des Gilets jaunes. Jean-Louis Debré, comment est-ce que vous expliquez que l'ENA soit aussi impopulaire et est-ce qu'on est en train d'en faire un bouc émissaire idéal dans cette période que nous traversons?
Juste d'abord, l'ENA, c'est une création du général de Gaulle, mais ça a été créé par les Républicains en 1848 par Hippolyte Carnot, supprimé par qui? Par Napoléon III, repris par Jean Zay en 1936.
Les années 30,
hein. Et puis, lorsque... mon père est arrivé pour mettre fin au système de recrutement, notamment de Vichy, où on recrutait que des gens qui étaient dans l'obéissance du pouvoir. On a créé l'École nationale d'administration. C'était un progrès, car le recrutement se faisait par concours et pour toute la fonction publique.
D'ailleurs, je vous coupe juste pour revenir sur la question. Pourquoi est-ce que l'ENA est impopulaire aujourd'hui? On pourra revenir sur l'histoire.
Mais je voudrais aussi dire qu'en 1981, les communistes au pouvoir n'ont pas voulu supprimer l'ENA. Ils étaient conscients de l'importance de cette école.
Et aujourd'hui,
alors qu'il faille réformer...
aujourd'hui, elle est impopulaire, en tout cas. C'est un état de fait. Pourquoi
impopulaire auprès de qui?
Que si vous parlez de l'ENA dans la rue, auprès des Gilets jaunes, auprès d'un... Non.
Oui, bah, c'est... qu'est-ce que c'est que la popularité?
Qu'est-ce que c'est que la popularité?
J'ai vu derrière le dernier sondage, en juin le dimanche, la réforme de l'ENA ou la disparition de l'ENA n'intéresse que 30% des Français.
Vous parlez de chiffres, justement, Jean-Luc Debré. En même temps, par rapport au projet initial de l'ENA que vous évoquiez tout à l'heure, ce brassage, notamment ce brassage, cette diversité de recrutement, bah, ça n'a pas forcément bien fonctionné. Benjamin, c'est précisément votre chiffre du jour.
68,8% des élèves de l'ENA sont des enfants de cadres supérieurs. Par comparaison, seuls 4,4% des élèves viennent du milieu ouvrier. Alors Agnès Verdier-Molinier, est-ce que l'ENA d'aujourd'hui a échoué dans le projet qui était celui de Michel Debré il y a quelques années?
Le sujet après-guerre, c'était de recréer un peu des élites administratives, des grands directeurs d'administration. Alors, en cela, aujourd'hui, on a énormément de directeurs d'administration et même de membres de cabinet et même d'hommes politiques et de femmes politiques qui viennent de cette école, qui sont passés par l'ENA.
Mais c'est aussi une mixité sociale.
Mais, bah, pas forcément. C'était aussi peut-être l'idée de préparer de très grands esprits finalement la meilleure gestion possible de la France. Moi, c'est plutôt comme ça que je l'entendais. En tout cas, est-ce qu'ils sont bien formés pour les défis que la France a affrontés, avec les défis qui sont les suivants? Un déficit public très important, qu'ils n'arrivent pas à résorber, puisqu'ils sont aux manettes de toutes les directions. À Bercy, vous n'avez quasiment aucun poste qui n'est pas occupé aujourd'hui par un énarque dans les grandes directions d'administration. Donc, le sujet, c'est est-ce qu'ils sont dans les défis de demain? Est-ce qu'ils sont bien formés pour cela? Et aussi, est-ce qu'ils représentent aussi la France privée? Parce que finalement, dans la question de la diversité, est-ce qu'ils représentent la France? Eh bien, il y a beaucoup d'enfants de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, et aussi d'énarques, qui deviennent eux-mêmes énarques. Et ça, la proportion est très, c'est très important. Alors, donc là, il y a aussi une reproduction en la matière.
Sont-ils bien
fondés? Il y a quand même plusieurs choses.
On va faire une expérience où on a un énarque sur le plateau. Précisément, on va demander à David Guilbeault, mais qu'est-ce qu'on apprend à l'ENA?
Alors, avant de dire ce qu'on apprend à l'ENA, je veux revenir sur le projet initial. Pour moi, dire que l'idée, c'était après-guerre, recréer des élites, pour moi, on occulte le fondement profond de la création de l'ENA, qui était bien avant-guerre, qui date déjà des années 30 avec Jean Zay, même bien avant, comme vous l'avez rappelé, qui était assurer l'indépendance des fonctionnaires par rapport aux politiques pour pouvoir éclairer les décisions politiques. Alors, avec une expertise un peu impartiale. Et là, vous mélangez, il me semble, la décision politique et le rôle des fonctionnaires.
Attendez.
Si je peux répondre, pourquoi il y a autant d'énarques qui passent en politique? On en connaît quand même beaucoup. Et les Français, quand on parle d'énarques, ils pensent à président de la République, parfois député.
C'est un ou deux éléments sur 99 d'une promotion, c'est pas beaucoup.
Rassurez-moi sur une chose, à l'ENA, on ne vous apprend pas à ne pas répondre aux questions.
Alors
justement, qu'est-ce qu'on apprend à l'ENA?
Je compte bien répondre à toutes vos questions. Qu'est-ce qu'on apprend à l'ENA? Vous avez énormément de choses qui sont apprises pour passer le concours, d'abord. Donc là, c'est des connaissances un peu en dur et avec cet aspect de bachotage qui est très critiquable à certains égards. Et ensuite, il y a la formation, c'est une école d'application. C'est comme ça que c'était conçu à l'origine, c'est-à-dire mettre les fonctionnaires dans des situations professionnelles pour un peu acquérir de l'expérience par des stages, par la confrontation avec d'autres administrateurs et essayer d'être prêt.
Des stages dans quel type?
Alors stages en ambassade, en préfecture et aussi dans le monde privé.
Vous l'avez fait où votre stage?
Alors moi j'ai fait ça dans une ambassade du réseau à l'étranger, j'ai fait ça dans une association qui s'appelait les Restos du Cœur, qui est une très belle association, et dans une préfecture, une toute petite préfecture de province puisque c'est Rodez qui est la préfecture d'un très beau département.
Des stages de quelle durée à peu près?
Et c'est des stages dans le cadre du stage préfecture 5 mois. Le stage ambassade c'était 4, et là tout ce que je vous dis c'est plus complètement valable puisque la scolarité était en cours de réforme.
Le procès qu'on fait à l'ENA, disant qu'on ne recrute que des enfants d'énarques, on peut le faire pour Polytechnique.
Et c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Factuellement, ce n'est pas vrai.
Et en plus,
41%.
Et en plus, ce n'est pas vrai.
Mais d'enseignants, beaucoup d'enfants d'enseignants.
Mais
pas d'énarques.
Chacun son tour.
27% d'abord, qui occupent des postes dans les grands corps, parce qu'en fait, les grands corps ont une surreprésentation.
On constate simplement que peut-être qu'il faut faire une réforme du service scolaire pour permettre à plus d'arriver à l'ENA.
Exactement.
Mais tous les grands corps de l'État, toutes les grandes écoles sont pas assez représentatives de la population. Ce n'est pas le propre de l'ENA. Mais qu'est-ce que je constate? C'est que l'ENA, il n'est pas là pour faire de la politique. Il n'est pas là. C'est au ministre de donner des instructions.
Alors pourquoi, Jean-Louis, juste une petite question, pourquoi quelqu'un qui devient ministre, donc qui fait de la politique, donc qui perd sa neutralité, qui est énarque, n'est pas obligé de démissionner immédiatement de son statut? Pourquoi quelqu'un qui se présente à l'élection présidentielle n'est pas obligé de démissionner de son statut?
C'est vrai pour tous les corps. Moi, je suis magistrat, j'ai fait de la politique. Si j'avais été battu, je serais...
Alors, il faut se poser la question globalement.
La question de la fonction publique et pas de l'ENA.
Oui,
l'entre-soi, il y a énormément de gens qui viennent de milieux très différents à l'ENA. Après, de fait, vous êtes mis ensemble, vous êtes 90 mis au même endroit pendant 2 ans, évidemment, ça crée une sorte d'entre-soi. La question, c'est qu'est-ce que vous faites après dans vos postes opérationnels? Est-ce que vous êtes sur le terrain? Est-ce que vous êtes sur des vrais enjeux? Et ça, c'est le cas.
Mais moi, je voudrais répondre quand même juste... Est-ce que ça crée une pensée unique? C'est ça aussi le procès qu'on fait.
Est-ce que ça crée une pensée unique?
Oui.
Alors, est-ce que vous êtes dans ce que j'avais commencé à dire et je réponds sur la pensée unique. Nathalie Loiseau, moi, c'était ma directrice quand j'étais à l'ENA. Il y a eu un groupe de travail formé par des élèves qui a émis des propositions de réforme de la scolarité, du classement de sortie, des réformes qui sont très importantes parce que c'est le vrai sujet, c'est pas la suppression de l'ENA. Le vrai sujet pour moi, c'est ça. Et à l'époque, elle a balayé ça d'un revers de main. Il y a eu aussi un livre qui s'appelait La ferme des énarques, qui est sorti il y a 4 ans, dont on avait beaucoup parlé. Elle a balayé ça d'un revers de main en disant que
l'entreprise
cherchait à faire du buzz.
Quand elle l'a dirigé, elle voulait pas réformer. Elle vient de dire
le contraire.
Elle vient de dire le contraire.
Exactement de ce qu'elle disait il y a 18 mois. Alors, qui croire?
Est-ce que c'est lié au fait, d'après vous, justement, qu'elle est entrée en politique maintenant?
Non, c'est parce qu'elle veut suivre Macron. Macron qui dit exactement le contraire de ce qu'il disait il y a 18 ans.
À la Fondation IFRAP, on avait essayé de travailler sur, justement, les cours de l'ENA. Et on avait demandé à avoir accès à l'information sur les cours de l'ENA. On a été entièrement bloqués, à l'époque, sous sa direction, parce qu'on voulait avoir une réflexion pour savoir, justement...
Donc, double discours.
S'ils étaient formés à réduire la complexité, à faire de la simplification, à réduire le nombre de normes, de lois, à réduire le nombre de strates administratives.
Vous pensez contre soi-même.
Mais c'est-à-dire,
l'action ne peut pas juste être dans le démantèlement de l'État, non.
À se préparer à faire des économies.
Justement, là, vous avez dit quelque chose de très important. L'action d'un fonctionnaire ne peut pas être juste dans le démantèlement de l'État. Ça veut dire qu'ils sont entièrement, finalement, dédiés à garder un statu quo sur le rôle
mais
de l'État.
Par exemple, mais si, quelle démagogie, c'est scandaleux.
Mais bien sûr, sur la mission de l'État. Il y a une décentralisation dont on a vraiment, vraiment besoin. Tous les exécutifs territoriaux le disent. On a un saucissonnage des financements des missions publiques qui font que finalement,
c'est pas la responsabilité des gouvernements.
Mais vous savez bien que dans les cabinets ministériels, ceux qui bloquent au secrétariat général du gouvernement, ce sont aussi des personnes qui viennent.
Le problème fondamentalement, c'est la crise. C'est la crise du politique. Bon. Et c'est la crise du politique.
Pleinement d'accord.
C'est la crise du politique qui ne dirige plus les hauts fonctionnaires. Et c'est là. Qui, on reproche aux fonctionnaires d'être arrogants. Mais qui?
Mais attendez, vous dites la même chose que moi. Ouais. Vous dites que finalement les politiques ont laissé gérer les hauts fonctionnaires. Donc tout ce qu'on a.
Parce qu'il faut qu'ils reprennent le pouvoir.
Tout ce qu'on n'a pas eu comme réforme ces dernières années est le fait finalement de préserver le statu quo. Les régimes de pension publique, le statut public, toutes les réformes qui ont été à l'étranger.
On va. Moi, je suis désolé, je ne peux pas laisser dire ça. C'est
un mot de David Guilbeault. Il faut que vous répondiez, il faut que vous répondiez après, on va avancer.
Quand vous savez comment travaillent les administrateurs civils, combien ils travaillent, les heures qu'ils font, ils finissent à 22h. Ils ont salaires certes confortables, mais qui n'ont rien à voir avec les salaires du privé. Donc moi, depuis 2 ans, j'en ai marre de cette démagogie qui tape sur les fonctionnaires comme s'ils étaient responsables des problèmes du pays. Ce n'est pas vrai, et Jean-Louis Debré le dit très bien, c'est quand le politique abandonne son rôle que les fonctionnaires prennent du pouvoir.
On va avancer.
C'est ça le vrai sujet.
On va avancer, parce que si jamais Emmanuel Macron...
Ne dites pas qu'il pousse à des réformes plus ambitieuses. Partout, ce qui s'est passé partout en Europe, la baisse des dépenses, la baisse de la fiscalité...
J'ai une bonne nouvelle pour vous.
La question du statut, partout, ils ont...
J'ai une bonne nouvelle pour vous, Agnès Verdier-Molinier. Il semblerait qu'Emmanuel Macron s'oriente vers la suppression de l'ENA. Alors, une fois que ça sera supprimé, par quoi peut-on envisager de remplacer l'ENA, Nadia ?
En tout cas, il y a un modèle qui inspire Emmanuel Macron. Visiblement, c'est l'école de guerre. On l'a beaucoup entendu et pour cause, il y a un dicton qui dit que pour chaque problème, il y a 3 solutions. La bonne, la mauvaise et l'école de guerre. Ah oui. Alors, cette école de guerre, c'est une école qui est plus que centenaire, qui est très secrète et qui va donc former des cadres supérieurs de l'armée française et qui a cette particularité d'exiger de ses élèves qu'ils aient déjà mis les pieds dans la glaise. Ce sont tous à la base des officiers de terrain. Alors, chaque promotion rassemble 200 Français qui sont issus de l'armée de terre, de la marine ou encore de la gendarmerie, et ainsi qu'une centaine d'officiers venant de pays étrangers. C'est une scolarité qui dure 43 semaines et la formation consiste, je cite, à apprendre à commander, planifier, conduire, négocier, comprendre et penser. Ce qui veut dire que quand Emmanuel Macron dit qu'il veut s'inspirer de cette école, ça veut dire donc qu'il s'agit de former des personnes qui ont déjà une expérience dans la fonction publique. Bruno Le Maire, il a même parlé d'une école pour fonctionnaires qui ont déjà 10 ans de carrière. David Guilbeault, est-ce que ça ne vous semble pas pertinent, effectivement, pour diversifier ce qu'on évoquait tout à l'heure, de recruter des personnes qui ont de l'expérience de terrain ?
Ben là, on commence à rentrer dans les vrais sujets, parce qu'on dit suppression de l'ENA, mais le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on veut faire ? Quelle fonction publique on veut ? Donc là, le sujet que vous mentionnez, c'est est-ce qu'il faut que les gens, dès qu'ils sortent de leurs études supérieures, puissent accéder à des postes d'encadrement dans la fonction publique ? Et ça, c'est une question
selon
qui
vous,
se pose.
Vous,
et est-ce qu'on ne peut pas prévoir, par exemple, que l'ENA interviendrait après une première expérience professionnelle pour aller plus loin ? Et voilà, ça ouvre
ça
aussi.
Est-ce que vous, ça vous semble pertinent ? Est-ce que ça pourrait résoudre certains problèmes ?
Après, je ne peux pas vous dire oui, non, comme ça, d'une façon tranchée, parce qu'il faut regarder les modalités, vers quoi on veut aller. Enfin, on est dans du simplisme.
Comment diversifier précisément, Jean-Louis Debré, comment diversifier le recrutement ?
D'abord, on supprime le concours.
Ça vous paraîtrait une bonne idée ?
Non, mais. Ah, bah oui, on revient au système ancien.
Du népotisme.
C'est le système du copinage, etc. C'est exactement ce que les Républicains ont voulu éviter.
Mais ça peut être aussi l'expérience qui vous permettre à un moment donné d'intégrer une grande école.
Personne ne dit, d'ailleurs, dans l'histoire de l'ENA, il y a eu des réformes pour ouvrir au maximum, peut-être pas suffisamment.
Ça n'a pas très bien marché.
On se souvient du déménagement même à Strasbourg.
Il y a des déménagements à Strasbourg, il y a le concours de fonctionnaires, il y a la troisième voie, tout ça.